Merci Olivier pour cette première partie et nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons déjà partagé, pour ce que nous avons déjà entendu. J'espère que nous restons attentifs pour ce qui vient. Je voudrais prier avant de nous lancer. Dieu notre Père, tu connais nos faiblesses. Nous avons besoin de toi maintenant pour partager ta parole et d'être conduit par la puissance de ton esprit. Parle à ton peuple pour la gloire de ton nom. Amen. Nous avons entamé l'étude de la lettre aux Corinthiens, comme Eric l'a signalé tout à l'heure, la semaine dernière. Et je vous encourage à écouter cette introduction. Je voudrais néanmoins reprendre ces quelques phrases que j'ai trouvées dans un commentaire cette semaine au sujet de la lettre aux Corinthiens. Et l'auteur écrit, je cite, « Le thème général de l'épître est celui-ci. Comment corriger et redresser une église mondaine et charnelle qui considère avec légèreté les attitudes, les erreurs et les actions qui alarmaient l'apôtre. L'église était dans le monde, chose normale, mais le monde était dans l'église, chose anormale. Comme de nombreuses congrégations connaissent cette même situation, 1 Corinthiens demeure d'une actualité permanente. » Fin de citation. Je vous invite à lire. Nous sommes parvenus au verset 18 du chapitre 1er de cette lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Et je lis, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté, et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. L'apôtre Paul écrit donc à une église qui fait face à de nombreuses difficultés, comme vous l'avez entendu. Les croyants semblent oublier où se trouve l'essentiel. Ils passent beaucoup de temps à se questionner sur des choses futiles. Et l'apôtre Paul va aller jusqu'à dénoncer les clans qui existaient dans cette église à Corinthe. Certains se disaient de Paul, d'autres se disaient d'Apollos, d'autres de Céphas, d'autres de Christ. Et Paul de poser la question, Christ est-il divisé? Le corps de Christ ne peut pas être divisé. Si aujourd'hui la bonne nouvelle est parvenue à Corinthe, c'est parce que le Seigneur s'est incarné, qu'il a accepté le sacrifice unique capable de laver le péché de l'humain. Et donc, c'est Jésus-Christ qui doit être au cœur des préoccupations. Et Paul va jusqu'à rejeter les manipulations dont certains ont usé pour, en parlant de l'Évangile, à leur avantage. La croix, dit-il, ne peut pas être et ne doit pas être vaine. Autrement dit, il ne faut pas se servir de l'œuvre de Christ pour se faire des galons. Et la croix fait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'elle clarifie le positionnement de tout homme. Et c'est ce que nous voyons au verset 18. Parler de la croix à Corinthe, ce n'est pas vendeur. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, parler de la croix, ce n'est pas vendeur dans notre monde. Alfred Kuhn raconte cette histoire de deux éminences grises de Cambridge. L'un s'appelait Gilbert West et l'autre s'appelait Lord Lyttelton. Un jour, ils se sont lancés pour défi de démontrer que la résurrection de Christ était une fake news, et d'expliquer pourquoi l'apôtre Paul avait tant de succès dans le christianisme. Si nous réussissons, se disait-il, le christianisme s'effondrerait comme un château de cartes. L'un et l'autre se sont donc mis au travail, chacun avec un thème à travailler. West est allé se concentrer sur la résurrection, tandis que Lyttelton étudiait la personnalité de Paul. Après plusieurs mois, ils se rencontrent. Ils se rencontrent pour faire le point. West prend la parole en premier et il déclare « Oh, Lyttelton, j'ai quelque chose de merveilleux à vous annoncer. Lorsque je me suis mis à explorer la doctrine de la résurrection du Christ, j'avais décidé d'être honnête et sincère. Je devais chercher des preuves irréfutables. Vous pourrez rire de moi, si vous voulez. Mais quand j'ai étudié la question de près, j'ai acquis la conviction que Jésus est bien ressuscité. Alors je l'ai prié, il m'a sauvé. À présent, je suis son ami. » Lord Lyttelton s'exclame, « Dieu soit loué, j'ai vécu la même expérience. Moi aussi, pour étudier la personnalité de Paul, je devais être sincère et ouvert. Peu à peu, je me suis retrouvé à genoux, comme Paul sur le chemin de Damas. Et j'ai prié, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Voilà comment deux athées sont devenus les chrétiens les plus célèbres de cette région. Et par la suite, ils ont écrit des livres sur l'apologie du christianisme. Qu'est-ce que cette histoire peut nous enseigner? Et c'est une histoire vraie, au passage. Elle nous montre qu'il est impossible de rester insensible au message de la croix. Ce message met de la clarté dans l'esprit de celui qui est sincère et honnête. Et Paul, dans ce verset 18, met en lumière l'existence de deux catégories face à ce message. Il y a la catégorie de ceux qui périssent et de ceux qui sont sauvés. Autrement dit, lorsque l'on parle de Jésus-Christ, mort à la croix pour sauver l'humanité, en fait, on est en train de vous dire, il y a urgence à prendre position. Vous ne serez jamais confortablement installé dans une position médiane Je sais que les élections approchent. Et assez souvent, lorsqu'on ne sait pour qui voter, parce qu'à droite, c'est peut-être trop difficile, à gauche, c'est peut-être laxiste, on se dit, on va voter au centre. Et il n'y a pas de centre lorsque l'on parle de la croix. Et Paul va même un cran plus loin, lorsque l'on lit en 2 Corinthiens 2, les versets 14 à 17, lorsqu'il parle de la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et d'une odeur de mort pour ceux qui périssent. Le message de la croix serait-il une folie? Et pourquoi? Regardons au contexte. Il est bon de se rappeler qu'à l'époque de Paul, la société baigne dans une culture où la connaissance des choses est un critère essentiel. On y trouve beaucoup de penseurs, des maîtres, des philosophes, c'est-à-dire des personnes amoureuses du savoir. Et ce savoir, il est le fruit de la réflexion des hommes. Il est constitué des observations de la nature, des choses physiques, parfois des choses au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Chacun, selon l'illumination qui est la sienne, apporte sa pierre à cette construction. Et des écoles étaient bâties autour de ces maîtres à penser. Chacun pouvait donc choisir, en fonction de la philosophie qu'il semblait être le plus adéquat, vis-à-vis de ce que lui-même pensait. Les croyants à Corinthe ont certes accepté Christ comme leur sauveur. Ils ont reconnu que Christ est mort et ressuscité pour leur salut. Mais ils veulent retrouver dans l'Église ce qu'ils ont connu hors de l'Église. Et c'est pour cette raison que vous entendez « Je suis d'Apollos ». Je suis de Paul, je suis de Céphas, je suis des Christ. Parce qu'on est baigné, habité de cette pensée-là que il nous faut un maître que nous voulons suivre. Et de cette manière naissent les divisions dans l'Église. Les Corinthiens ont oublié que le message de Christ est une révélation. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une pensée d'un homme, c'est la révélation de Dieu à un peuple. Dieu veut se faire connaître. Le message de la croix est-il une folie pour l'homme? Parce que tout ce qui travaille à la suite de Christ exprime cela. Il s'agit du plan de Dieu et de la providence de Dieu pour la notion de la rédemption, pour la rédemption de l'homme. Il s'agit de la pensée de Dieu par rapport à l'humain face à la mort. Et cette révélation a pour point culminant la croix. Ce message est difficile à faire passer aux Corinthiens. En 2 Corinthiens 2, verset 2, Paul refuse de satisfaire aux attentes des Corinthiens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un leader. Ils veulent quelqu'un qui leur dise quelque chose qui flatte leurs oreilles. Et Paul dit qu'il n'a qu'un message, celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. C'est là le véritable message que chaque humain devrait entendre. La sagesse humaine a des difficultés à entendre cela, parce que la sagesse des hommes veut se mettre au-dessus de la sagesse de Dieu. De fait, la sagesse de Dieu devient alors une folie pour le cœur qui n'est ni disposé, ni sincère, ni objectif. Wes et Littleton constituent des exemples de cette folie humaine. Cependant, leur sincérité les a amenés à reconnaître le message de la croix, un message authentique, un message de vérité, un message d'espérance. En résumé, le message de la croix est une folie lorsque notre culture est érigée en unique lunette pour saisir la réalité biblique. Au lieu de nous aider, elle nous maintient prisonniers dans l'ignorance et surtout, elle nous maintient loin de l'Éternel. Et Paul va poursuivre son enseignement en parlant des caractéristiques de la sagesse de Dieu. Et Paul commence par faire appel à Ésaïe pour parler de ce Dieu au-dessus des pensées des hommes. Ésaïe 29, 14, il est dit « C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ses sages disparaîtra et l'intelligence des hommes intelligents devra se cacher. » Le texte ou le contexte de ce verset est celui des Israélites qui font face au roi d'Assyrie, Sanchérib. Sanchérib voulait avoir autorité sur le royaume dirigé par Ézéchias. Et à cette époque, Ézéchias, pour se prémunir de toute domination, essaye d'établir une alliance avec l'Égypte, qui était aussi une puissance à cette époque. Ézéchias doit malheureusement constater que cette alliance ne peut pas le sauver. Je vous passe des détails. Le Seigneur fait dire à Ésaïe de ne pas s'inquiéter. Face à cette menace, il combattra lui-même pour son peuple. Et vous pouvez lire cette histoire en 2 Rois, au chapitre 19, versets 35 à 37. L'ange de l'Éternel, en une nuit, détruit 185 000 militaires. Le salut du peuple vient de l'Éternel. Ézéchias n'avait que ses vêtements à déchirer et criait à l'Éternel. Ni ses conseillers, ni aucun homme ne pouvait lui venir en aide. Et Dieu va ainsi réaliser quelque chose d'inimaginable pour son peuple. La sagesse des hommes, elle est semblable à ce que décrit Jacques au chapitre 3, les versets 15 à 17. Elle est une sagesse faite de jalousie amère, je cite, d'un esprit de rivalité. Et Jacques va même plus loin, il qualifie la sagesse des hommes de démoniaque. Et à Corinthe, ces choses existent. Les mots M-A-U-X dénoncés par l'apôtre Paul restent d'actualité pour notre humanité. Cette humanité au 21e siècle, 20 siècles plus tard, nous en sommes toujours confrontés aux mêmes difficultés. Pourtant, la connaissance a augmenté. L'humanité a fait de grands progrès. Nous avons la technologie qui nous permet de communiquer d'un bout à l'autre du monde. Nous pouvons voyager, nous déplacer. Mais les rivalités, l'égoïsme, la haine, les mensonges sont toujours présents. Malgré la philosophie, malgré les connaissances, l'humain n'est toujours pas arrivé à éradiquer l'égoïsme. L'égoïsme qui gît au cœur de l'homme. Et les hommes ont cherché à travers des pratiques diverses à faire face à ces embûches. Il est hélas évident le constat d'échec. D'où la question de Paul aux Corinthiens, au verset 20, partie B. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ? C'est en l'Éternel que se trouve la solution. Les Corinthiens dans l'Église cherchent des solutions auprès de la philosophie. Il n'y en aura pas, leur dit l'apôtre Paul. Parce que la sagesse du monde a déjà démontré ses limites. Il vaut mieux abandonner ce chemin-là pour rechercher la sagesse en l'Éternel. La culture et toutes les connaissances des Grecs de l'époque de Paul n'ont pas suffi à améliorer le vécu humain. et même avant Paul, du temps de l'Égypte florissante. Il y avait des soi-disant sages. Et vous savez quel a été leur sort devant Moïse. La paix, la joie, l'harmonie, la fraternité ne peuvent nous être données par l'œuvre, ne peuvent nous être données que par l'œuvre de salut à la croix. Oui, la sagesse de Dieu demeure de toute éternité. Et l'agitation des hommes ne sera qu'une démonstration au fil du temps que la sagesse de Dieu est bien sage. Comme Ézéchias ne pouvait se sauver lui-même, ni son royaume, Paul appelle aux Corinthiens. Paul en appelle aux Corinthiens afin qu'ils sortent des considérations humaines pour se donner à Christ, car la sagesse de Dieu est puissance, elle est puissante. Après avoir démontré la défaillance de l'homme, Dieu est prêt pour faire un échange. Il met à disposition la folie de la prédication contre la défaillance humaine. Il a plu à Dieu d'agir ainsi pour notre bien. Dieu offre la transformation du cœur, la régénération, la nouvelle naissance, une vie nouvelle par la puissance de la croix de Jésus-Christ. C'est ce contenu-là que Dieu propose aux humains. Et c'est ce contenu qui est l'objet du rejet de l'homme. L'Éternel est prêt à accueillir ton passé, c'est-à-dire ton péché, qu'il transforme en justice. Mais il faut que tu croies. L'Éternel offre l'espérance face au désespoir que tu as connu. L'Éternel seul est capable de changer en profondeur ton existence. Dans sa sagesse, le monde n'a point connu le vrai Dieu. Lorsque Paul arrive à Athènes, il constate que les habitants de la ville connaissent de multiples dieux. Ils ont érigé des statues pour le dieu de ceci, le dieu de cela. Et puis, il y a une statue qui est érigée au nom d'un Dieu inconnu. Et Paul le déclare, c'est ce Dieu-là dont je viens vous parler. Ce Dieu qui les connaît, qui sait ce qui les tourmente, ce Dieu qui peut les libérer de cette recherche effrénée de la philosophie de la sagesse. En fait, si à Corinthe, la philosophie fait tant des mules, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, l'être humain est confronté à des questions existentielles. La puissance de l'œuvre de Christ peut répondre à cette soif qui est au fond de ton cœur. Seulement, à Corinthe, chacun selon sa culture exige, réclame une réponse du Seigneur qui se rapproche de sa réalité à lui. Du temps de Jésus, que de miracles réalisés, en public comme en privé. Jésus n'a cessé de réaliser des miracles. Pourtant, que font les Juifs? Ils réclament encore des miracles pour soi-disant croire s'ils voient des miracles. Quel miracle voulez-vous voir d'autre? Y en a-t-il pas assez? Pour ces mêmes Juifs, le Messie attendu vient dans la puissance et la splendeur terrestre. Et ils ont oublié la description du Messie faite en Ésaïe 53. Ces Juifs sont en train de falsifier la parole de Dieu. Ils refusent de lui donner le sens qu'elle porte. Quant aux Grecs, ils pensent que la matière a peu de consistance, car tout ce qui est matière est méprisable. Comment, pour un grec de l'époque, un dieu peut s'incarner? C'est-à-dire devenir vulnérable, devenir méprisable, devenir faible, devenir mauvais. Ça ne passe pas dans la tête d'un grec de cette époque-là. Il ne comprend pas cela. Ce n'est pas possible. Alors, si on n'est pas déjà capable d'admettre cela, quand on parlera de la crucifixion, qu'est-ce que ce sera? On ne comprendra rien du tout. Pour les Grecs du temps de Paul, il faut de la rationalité. Notre monde, de quoi est-il fait? Les philosophes qui nous ont précédés, comment ont-ils impacté notre culture, notre façon de penser? Ne sommes-nous pas aussi rationnels que ces Grecs, où nous voulons des démonstrations de choses? Le Grec du temps de Paul ne comprend pas qu'un Dieu s'incarne et qu'il meurt à la croix. C'est un discours odieux, difficile à avaler. On a besoin de rhétoriciens. On a besoin de gens avec l'aptitude oratoire, capables de nous convaincre par des arguments. Certains veulent des miracles, d'autres veulent des démonstrations rationnelles. Paul, à travers ces deux groupes, nous présente l'humanité dans sa diversité. Elle est faite de gens qui ont eu la grâce d'entendre la bonne nouvelle, l'œuvre de Dieu. Elle est faite aussi de ceux qui, plongés dans leur culture, dans leurs acquis sociaux, ont du mal à sortir. Ce sont ces incrédules non-juifs. La difficulté est pour chacun de ces groupes. Accepter Christ comme Sauveur et Seigneur est une œuvre de Dieu qui vient à la rencontre d'un cœur disposé, d'un cœur sincère et d'un cœur ouvert. C'est dans ce cadre-là que la puissance de Dieu se déploie amplement. Les humains décrivent un Dieu faible. Il serait peut-être plus honnête de parler de leur incompétence à faire mieux et dire que ce Dieu faible réalise ce qui dépasse leur sagesse. Comme troisième caractéristique de la sagesse de Dieu, Paul parle de cette sagesse qui est supérieure à celle des hommes. Lorsque nous regardons autour de nous, quels sont les critères sur lesquels nous nous appuyons pour apporter de la considération aux personnes? Et ceci est même parfois valable dans l'Église. On veut savoir où vous travaillez. On veut savoir quel poste vous occupez. On veut savoir quel est votre niveau académique. Et parfois, notre comportement change en fonction de ce que vous nous avez dit, en fonction de ces critères-là. Cela peut plaider en votre faveur, on vous accordera peut-être plus d'intérêt. Cela peut plaider en votre défaveur en disant, il ne nous sert de rien. Et nous nous retrouvons ici face à un paradoxe. Paul commence par mettre en avant la démarche du Seigneur. Il parle de votre appel, votre propre appel. Une façon de dire que les chrétiens de Corinthe n'ont pris aucune initiative. Ils ont simplement répondu à l'appel que le Seigneur leur a adressé. L'appel est adressé aux non-puissants, à ceux qui ne sont pas nobles, à ceux qui manquent de sagesse. L'appel de Dieu vise ceux qui se sentent dans le besoin. Celui qui a tout n'a plus besoin du Seigneur, il se suffit à lui-même. Cependant, Paul ne dit pas que l'appel de Dieu est exclusif. Il constate qu'à Corinthe, c'est ce public-là qui a répondu à l'appel du Seigneur. Le paradoxe est que nous aurions fait un choix différent. Si on demande quel genre d'amis tu voudrais avoir, je doute fort que ton premier choix serait de choisir les éclopés, les sans-abri, les nécessiteux. On voudrait bien avoir pour ami celui qui est connu, celui qui a une position favorable. Et le choix de Dieu n'est pas celui-là. Dans sa sagesse, Dieu nous a choisis, toi et moi. Dieu appelle des personnes souvent au banc de la société, des personnes sans avantage particulier, des personnes sans grade. Regardez parmi les disciples, qui trouve-t-on ? Des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, entre guillemets, des voleurs. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils faisaient, ils détournaient de l'argent. Certains, même on ne sait pas quelles étaient leurs professions. La parole de Dieu n'en parle pas. L'humilité et la simplicité du message auquel répondent les croyants sont parfois difficiles à comprendre pour le monde, même pour nous en tant que croyants. Aujourd'hui, on entend parler des églises de bobos. J'avais entendu cette expression il y a quelques années quand j'étais en formation à Paris, et le prof nous parlait d'une église qu'il avait fréquentée. Il disait « Oui, mais c'est une église de bobos ». Je dis « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Une église de bobos, c'est-à-dire une église de gens au niveau de vie sociale élevé, qui mènent une vie hors du commun et qui se prennent pour ce qu'ils sont. Le Seigneur n'est pas contre les riches. Mais Paul, dans cet extrait, nous rappelle le regard que pose le Seigneur sur les choses et les humains. Jésus dit au sujet de Jean-Baptiste, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. » Matthieu 11, verset 11. Et quand vous savez comment a vécu Jean-Baptiste, cela semble bien paradoxal. La sagesse de Dieu, elle a un but. Le Seigneur veut nous garder dans l'humilité. Devenir croyant n'est pas un mérite. Le contenu de l'Évangile enlève toute fierté. En effet, il nous rappelle notre condition, notre réalité, notre condition d'esclave du péché. Il nous rappelle l'initiative du Seigneur dans sa conception, la mise en forme et la réalisation du salut, l'incarnation de Christ, l'acceptation de ses souffrances, la mort à la croix, la résurrection. En effet, tout est accompli par Christ. Nous n'avons rien à proposer. Nous ne pouvions rien proposer de valable. Mais nous pouvons faire une chose, c'est saisir la main tendue du Seigneur. C'est ce message que Paul annonce aux Corinthiens. Christ est notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Et nous retrouvons cette description en Colossiens 2, versets 8 à 15. Je lirai juste au verset 13. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. » La sagesse de Dieu manifeste. Elle est manifeste dans l'œuvre de Christ. Ce qui était impossible aux hommes, Dieu le réalise à travers Christ. Alors, quelques mots de conclusion pour nous. Notre contexte et notre vécu ne changent rien à la réalité de la croix. Cette réalité continue de questionner l'humain pour l'amener à faire un choix clair. Et le choix idéal, c'est Christ. Continuons de prier l'Éternel pour que le maximum soit sauvé. Deuxièmement, la sagesse de Dieu a fait ses preuves depuis l'apparition de l'homme. Malgré les aptitudes que l'Éternel a données à l'humain, les hommes auront toujours besoin de la sagesse de Dieu pour être sauvés de la mort du péché. Comme croyants, soyons actifs dans le champ qui est celui du Seigneur. La sagesse de Dieu, c'est toucher les cœurs sincères, honnêtes et disposés. Soyons humbles lorsque nous sommes engagés dans un processus d'annonce de la bonne nouvelle. Quatrièmement, annonçons fidèlement l'Évangile. Il se suffit à lui-même. Nous n'avons pas besoin d'ajouter ni de retrancher. La sagesse des hommes ne les sauvera pas. Et ce n'est pas non plus notre talent d'orateur qui fera des fidèles. C'est le contenu fidèle de l'Évangile, Jésus-Christ crucifié. C'est lui que nous devons annoncer. Celui qui annonce l'Évangile ne cherche pas des disciples à sa suite. À Corinthe, à travers l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. C'est la puissance de Dieu qui agit, qui convainc de péché les âmes perdues. Les démonstrations rhétoriques, elles font des disciples intellectuels et instables. Parce que ces disciples-là, quand ils trouveront un autre maître, eh bien, ils changeront de maître. Prêchons Christ et que la foi soit le fruit d'une démonstration du Saint-Esprit. Et si tel est le cas, l'Église sera préservée des divisions et des disputes qui sont des œuvres charnelles. Amen.